Radio Okapi.
Pascal Masterica, la présentation du journal.
Économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, au menu la transition politique au Tchad. À l'occasion, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour des recommandations contre l'exacerbation de la crise dans la sous-région. Calme et précaire cet après-midi sur les lignes de front entre les FRDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Les FRDC maintiennent leur position de Kibaya, proche de la cité de Bunagana, et de Kabindi sur le front ouest dans le groupement de Djomba. Notre invité, c'est le ministre de l'Agriculture à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Désiré Nzinga a appelé hier les acquéreurs des tracteurs de 2011 et les occupants des espaces agricoles de l'État de le remettre sans délai sous peine des sanctions judiciaires afin de booster le secteur agricole. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouverture ce mardi à la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sous l'égide du chef de l'État congolais. Ces assises portent sur le processus de transition politique au Tchad. Elles devraient aboutir à la désignation des médiateurs de la CEAC en vue d'accompagner le Tchad. Outre les chefs d'État, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, participe au sommet. Dans son mot d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour des recommandations contre toute exacerbation de la crise au Tchad et dans la sous-région. Des propos recueillis par Billy Valutumba.
L'espoir d'un renouveau démocratique au Tchad sur fond de réconciliation nationale s'est effrité. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle. Il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEEAC ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Point n'est besoin de rappeler qu'en raison du principe de subsidiarité, les recommandations et décisions que nous prendrons détermineront certainement celles de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. Face aux multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels notre continent et notre sous-région sont confrontés, nous ne pouvons nous permettre ni l'exacerbation ni l'enlisement de la crise au Tchad. Nous n'avons pas de temps à perdre.
Notez que le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a été désigné facilitateur du processus politique au Tchad. On enchaîne maintenant avec le Nord Kivu où un calme précaire a régné cet après-midi sur les lignes de front entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Dans la région, des sources administratives et civiles précisent que vers la fin de la matinée, des tirs ont été entendus pendant quelques minutes dans les environs de Bunagana, groupement de Busanza. Ces sources ajoutent que les FRDC maintiennent leur position à Kibaya, proche de la cité de Bunagana et de Kabindi sur le front ouest dans le groupement de Djomba. Les rebelles du M23 sont à Bunagana et à Ntamugenga. Nord Kivu encore, après 14 ans de présence, la MONUSCO ferme sa base militaire dans la région de Nyamilima, territoire de Rutshuru, en collaboration avec les autorités provinciales. Une zone en proie aux groupes armés locaux et étrangers situés à une centaine de kilomètres de la ville de Goma sur l'axe Ishasha à la frontière avec l'Ouganda. Cette mesure a suscité donc des inquiétudes des habitants qui demande que des dispositions soient prises pour garantir leur sécurité. Sifa Maguru revient de la région, voici ses notes de reportage.
Située dans le groupement de Binza, plus au nord de Rutshuru, l'agglomération de Kiwanja fait face à des problèmes de sécurité, notamment à cause de l'activisme accru des groupes armés. C'est entre autres les Maïmaï d'obédience ethnique, notamment les Nyatura, les CMC et les autres, sans oublier les FDLR, Rudi et Foka, très actifs. Pour le fonctionnaire délégué du gouverneur dans la région, le moment est mal choisi alors que la région est dégarnie des militaires à cause des affrontements contre le M23 vers Bunagana. Cette base de la MONUSCO était plus dissuasive devant les groupes armés, a indiqué Alphonse Kambalé.
Nous savons que la MONUSCO fait beaucoup de choses dans notre milieu. Nous voyons les enfants quitter la brousse et arriver facilement à la MONUSCO s'ils ont peur des FARDC. C'était un canal facile lorsqu'il y a une attaque dans la cité et la population s'est réfugiée devant la MONUSCO. Ce n'était pas le moment parce que maintenant toutes les troupes sont concentrées pour combattre le M23. Les militaires ne sont pas encore rentrés du front et la base va fermer.
Cette autorité administrative locale demande aux FARDC de renforcer leur présence, mais aussi d'être vigilants afin que les groupes armés ne puissent profiter de ce vide pour reprendre leurs activités. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Fermeture samedi dernier du centre d'accueil des déplacés de Kwamout, situé au marché central de Malebo à Bandundouville. C'est après la remise de frais de transport et de réinsertion aux 500 ménages par la commission humanitaire mise en place par la délégation gouvernementale venue de Kinshasa. Pour l'instant, ce site est vide et les déplacés qui refusent de retourner à Kwamout ou Maïndombe se rendent où ils veulent. À Bandundouville, Irène Mboma.
Après avoir reçu les biens constitués de vivres et non vivres, y compris d'une enveloppe de 200 000 francs congolais par ménage pour les frais de transport et de réinsertion dans du gouvernement congolais, plusieurs déplacés de Kwamout qui étaient logés au centre d'accueil collectif de Malebo à Bandundouville ont plié bagages et quittent déjà cette ville pour se rendre dans les milliers de leur choix, notamment leur village natal. Je provenais de Bibonga à Kwamout, mais je ne vais plus y retourner. J'ai vu le sang couler là-bas. Je ne saurais plus vivre encore dans ces milliers. Comme les autorités nous ont remis l'argent, je rentre à Gungu. Je n'ai pas encore trouvé d'occasion. Je dois prendre un véhicule jusqu'à Kikwit et de Kikwit, je vais aller jusqu'à Idjofa pour arriver à Boulouem. Je ne veux plus retourner d'où je provenais parce que là, j'ai frôlé la mort. Je prends le transport pour aller à Kinshasa chez mes parents. Notez que pour l'instant, tous les pavillons où étaient logés ces déplacés sont fermés par les autorités. La société civile du Kwilu condamne cette fermeture et pense qu'elle est prématurée et malvenue. Car selon elle, les assaillants de Kwamout sont toujours dans la nature et survivent des élevages et des produits agricoles de ces paysans à qui on a demandé de rentrer dans la gueule du loup. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Faisons un détour par l'Ituri où beaucoup d'enfants des déplacés estimés à plus de 20 000 ont repris le chemin de l'école au site de Djaïba, Djina et Boulé dans le territoire de Djougou. Selon des sources concordantes, c'est suite à l'amélioration de la situation sécuritaire et le fait que certaines écoles sont délocalisées proches de la base de la MONUSCO où les habitants se sentent plus en sécurité. Pour en parler, retrouvons à Bounia Isaac Remoyopé.
Beaucoup de déplacés ont inscrit leurs enfants à l'école cette année dans les territoires des Djougou à la suite de l'accalmie observée depuis 3 mois dans cette entité. Plusieurs écoles qui étaient fermées à cause de l'insécurité ont été délocalisées dans les milieux sécurisés surtout proches des bases de la MONUSCO. Par exemple, à l'école primaire Lona Jina, à 5 km de la base des casques bleus népalais à Jina, le nombre d'élèves est passé de 250 à plus de 600. Chaque classe compte en moyenne 100 élèves. Les directeurs de l'école justifient cet effectif pléthorique par les retours des déplacés concentrés autour des installation de la MONUSCO, Makinga Djolé.
Par classe, nous devons avoir jusqu'à 5 élèves. Mais il y a ça avec 2, ça avec 3 élèves par classe. Les parents qui s'étaient déplacés à Igabaré, à Lopas, sont revenus ici à Jina grâce à la présence de la MONUSCO. Ils rassurent les parents, les élèves et les personnels de l'école.
À Boulé, 90% des enfants ont repris le chemin de l'école au début de cette année scolaire, précise le président du site de la plaine des Savo qui compte 28 000 personnes. Cependant, il déplore le manque de vivres et de fournitures scolaires qui découragent certains enfants de fréquenter l'école. Emmanuel Ndalo.
Au début, ici, il y avait 90% du site plein de savoir ici partait à l'école. Mais après, et moi, les enfants ont commencé à négliger les cours dans leur ménage. Il n'y a pas à manger.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, au sud Kivu, une action disciplinaire est ouverte après la suspension des 2 directeurs d'école primaire et d'un préfet des études. À l'issue d'une enquête menée, ils sont accusés d'avoir foulé au pied l'application de la gratuité de l'enseignement fondamentale. Les parents d'élèves qui saluent cette mesure demandent l'élargissement de cette enquête dans tous les secteurs de l'enseignement. À Bukavu, Emmanuel Elmejo Kabidi.
Les directeurs des écoles primaires Nyalukemba et Muungu 1 sont suspendus de leurs fonctions. Décision du chef de sous-division de l'EPST Bukavu 1. Les deux sont accusés d'avoir exigé des frais jadis appelés primes aux parents d'élèves de leurs écoles primaires respectives. Les écoles primaires publiques qui sont pourtant concernées par la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Monsieur Léon Moussagui, provède intérimaire du Sud Kivu 1.
Epe Nyalukemba, Epe Muungu sont suspendus pour avoir demandé la prime à l'école primaire. Alors que la gratuité concerne les écoles primaires. Le travail va concerner toutes les écoles primaires et secondaires. Alors, une école qui sera attrapée en train de demander les frais aux enfants, il y a des consignes qu'il faut suspendre et voire même limoger ce chef d'établissement-là. Parce que la gratuité n'est pas négociable. On a passé 2 ans en train de les sensibiliser. Maintenant, on passe à l'action.
Le préfet de l'Institut de Bagira, lui, est suspendu pour des affectations et mégestions de frais alloués au fonctionnement de son établissement scolaire. Il aurait dilapidé plus de 7 000 $ américains non justifiés lors du contrôle des inspecteurs. Emmanuel Elamejoakabedi, Bukavu Radio Okapi.
Même son de cloche dans la province du Haut-Lomami où un directeur d'école du territoire de Malembankoulou est également suspendu pour avoir enfermé dans l'armoire 4 de ses élèves. Ce geste est condamné par les autorités de l'enseignement. La société civile, quant à elle, fait remarquer que, quel que soit l'effet reproché à ses élèves, pareil traitement ne peut pas se justifier. Radio Okapi Lubumbashi, Jean Ganduka Bongo.
Les faits se sont passés à l'école Mulundawani à Malembankoulou quand les autorités éducationnelles du Haut-Lomami se sont rendues en itinérance dans ce territoire. C'est ainsi que le directeur provincial du Sékopé est allé voir le responsable de cette école conventionnée catholique pour une inspection de routine. D'après les sous-prophètes de Malemba, une fois dans le bureau de ce dernier, le diprosec a entendu des bruits bizarres dans une des armoires du bureau. C'est ainsi qu'il demandera au directeur de l'ouvrir. Surprise, 4 élèves y étaient enfermés et coincés, 3 de la 3e année et 1 de la 6e année primaire. Le directeur a indiqué que ces 4 élèves ont profité du temps de récréation pour cueillir le mangue en jetant les pierres à l'arbre. Malheureusement, un projectile a blessé une autre élève à l'œil. Craignant que les parents de cet élève ne viennent s'en prendre à eux, il a jugé bon de les sécuriser, ce qui l'a poussé à les enfermer dans l'armoire. Une explication qui n'a pas convaincu les diprosec. Ce dernier a demandé à l'inspecteur chef des poules de le suspendre en séance tenante en attendant l'aboutissement des enquêtes pour tirer l'affaire au clair. La société civile locale déplore cet incident car ces enfants pouvaient bien mourir asphyxiés, surtout que ces derniers temps il fait très chaud dans ce territoire. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, ici à Kinshasa, après la pluie qui s'est abattue hier sur la majeure partie de la capitale, l'heure est au bilan dans plusieurs quartiers de la ville. À Salembao, par exemple, une jeune fille de 17 ans est morte emportée par l'eau des ruissellements au centre, au quartier Tululumbalo. Beaucoup de Kinois ont été contraints au grand nettoyage ce mardi après les inondations, tandis que ceux qui habitent des sites érosifs sont sans abri actuellement. C'est ce que nous raconte Babel Mpongo Masimango.
Outre ce décès dans la commune de Selimbao, son bourgmestre adjoint Crispin Miyambi parle des dégâts matériels importants.
La maison communale, la toiture de notre hangar emportée au quartier Kondé, le mur de l'école Sedeco s'est écroulé. Au quartier Mbala, une érosion menace de sectionner la route Matadi à l'arrêt Zappé. Il y a un agrandissement des érosions quasiment dans tous les quartiers.
Aussi à Limba, notamment à Livoulou et Mbanzalimba, le bourgmestre Jean Saka.
Mbanzalimba, il y a une maison emportée par des têtes d'érosion. D'ailleurs, j'ai en face de moi les familles sinistrées. Le quartier Livoulou a été touché derrière Limosantou. Mais ici, en tout cas, il est impérieux que l'on réagisse vite parce que 2-3 pluies après, ça fera des dégâts très, très graves.
L'eau stagne encore dans plusieurs parcelles situées le long des rivières ainsi que la boue. C'est entre autres au quartier 9 dans la commune de Njili, au quartier Kilimali à Kitambo, au quartier Evoloko, Tchangu, Kongo et Chwenge dans la commune de Massina, dans certaines autres parties de Lingwala, Ngiringiri, Bumbu et Kinshasa. Dans la majorité des communes, le bourgmestre lie cette situation au manque de canalisation des eaux, de curage ainsi qu'à l'érection des maisons sur des sites non édificants.
Merci Babel Mpongo Massimango pour ces précisions. Et puis le journaliste freelance des New York Times, Steve Wemby, est depuis hier lundi aux arrêts. Son épouse et sa mère, venues s'enquérir de la situation à l'hôtel Léon dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa, ont également été arrêtées puis relâchées quelques instants après. Sur son compte Twitter de ce mardi, le bureau conjoint des droits de l'homme note avec inquiétude des menaces et intimidations de plus en plus fréquentes contre les journalistes. C'est ce que nous explique Kelly Yoka.
Le BCNUDH condamne ces menaces et invite les autorités à prendre des mesures nécessaires pour les faire cesser et ouvrir systématiquement des enquêtes lorsque de tels cas se présentent. Depuis le début de l'année, de plus en plus de journalistes couvrant l'actualité en RDC sont la cible de menaces d'arrestation par les services de renseignement, d'agressions physiques et d'autres formes de harcèlement, indique la même source. Les libertés d'information, d'opinion et d'expression sont constitutionnellement protégées et garanties par les lois en vigueur en RDC. Il appartient aux autorités de tout mettre en œuvre pour construire un environnement sécurisé propice au développement d'une presse libre et indépendante. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme continue à plaider pour l'adoption des lois relatives à la liberté de la presse et réitère son soutien aux autorités, aux associations de journalistes et ONG pour la promotion et la protection des droits des journalistes.
Actualité internationale.
Ce mardi 25 octobre marque le premier anniversaire du coup d'État qui a interrompu la transition démocratique amorcée au Soudan. Un an après, les militaires au pouvoir n'ont toujours pas réussi à nommer un premier ministre et le pays a plongé dans la tourmente politique, économique et la corruption. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra met fin aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Danielle Darlan, par décret pour empêchement définitif à la suite de sa mise à la retraite. Dans la foulée, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques de la faculté de Bangui convoque une assemblée extraordinaire vendredi prochain pour pourvoir au remplacement de la représentante des enseignants à la Cour constitutionnelle. Et puis en Afrique du Sud, la ville de Johannesburg accueillera dimanche prochain les pourparlers sur la guerre en Éthiopie avec des délégations du Tigré et du gouvernement central éthiopien dans un contexte très tendu. L'armée fédérale gagne en ce moment du terrain au Tigré et la communauté internationale ne cesse d'appeler à un cessez-le-feu. Jusque-là, très peu d'informations ont filtré sur ces négociations.
L'invité.
Notre invité, c'est le ministre de l'Agriculture. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, Désiré Mzinga Birianze a appelé lundi les acquéreurs des tracteurs de 2011 et les occupants des espaces agricoles de l'État de le remettre sans délai sous peine des sanctions afin de booster le secteur agricole de la RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Monsieur le ministre Désiré Mzinga, bonjour.
Bonjour.
Vous avez annoncé lundi, à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, deux mesures, la restitution des tracteurs acquis en 2011 et des espaces maraîchers et agricoles à l'État congolais. Comment vous allez vous y prendre? Quelle est la chance de réussite de telles mesures face à la résistance de certains acquéreurs et de la faiblesse de notre justice?
La faiblesse de notre justice, c'est nous qui faisons de la justice une justice faible. Et donc, si on croit à la justice, nous avons dit que tous ceux qui ont bénéficié des tracteurs depuis 2011 et qui n'ont pas aidé l'agriculture, qui n'ont pas servi à la nation, de pouvoir les restituer. Mieux, de pouvoir nous contacter pour qu'on nous dise dans quel état se trouvent ces engins. Si on peut récupérer, on récupère. Si on peut déclasser, on déclasse. Ce sont les biens de l'État. La leçon qu'on nous donne, c'est que les biens communautaires doivent toujours être protégés. Nous allons nous y prendre comment? C'est là que vous avez parlé de la faiblesse de notre justice. Et moi, je dis non. La faiblesse est dans notre tête et dans notre agir. Je viens d'une école où on nous parlait de l'état de droit. Et l'état de droit, tel que notre maître Étienne Tshisekedi de reste mémoire disait, ça commencera par nous. Et donc, je respecte la loi, je fais ce que la loi me demande et je fais confiance à la loi. C'est vrai, il y a encore des brebis galeuses dans la justice, mais tout le monde n'est pas corrompu. Et donc, nous avons mis en place une commission qui a les listes, qui va revoir ces mêmes acquéreurs, qui va les resensibiliser, et que s'ils résistaient, nous allons recourir au procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa. C'est clair. Et là, vous verrez que la justice n'est pas une justice corrompue, comme on tente de le dire.
Non. Est-ce que, monsieur le ministre, cette mesure est une panacée pour lutter contre la crise alimentaire qui sévit dans notre pays? Ne faut-il pas penser à d'autres stratégies?
Il y a beaucoup de stratégies. Oui. Nous avons organisé les états généraux de l'agriculture qui nous ont produit un tableau des bords, une boussole qui va nous montrer comment nous allons faire les choses. Mais ça passe par là. Nous devons commencer à vulgariser l'agriculture, à sensibiliser les gens pour que tout le monde mette la main à la pâte. Et donc, nous pensons qu'ils vont adhérer d'abord à la récupération de ces engins, qu'ils vont nous faciliter à pouvoir déclasser ou à pouvoir remettre en fonction certains engins. Et donc, c'est leur participation que nous attendons. Mais pour ceux qui ne voudront pas le faire, c'est là que nous allons montrer que l'État est plus fort que moi, ministre, plus fort qu'un député, plus fort qu'un gouverneur, plus fort que n'importe quel citoyen.
Voilà. Est-ce que, monsieur le ministre, on peut prendre rendez-vous avec Radio Capi pour nous montrer le premier lot de tracteurs remis et à quelle échéance?
Dans une semaine.
Dans une semaine.
Dans une semaine.
Je ne parlais pas de 3 ou de 2 comme vous l'avez dit.
J'ai dit dans une semaine. Le lot commence par 3, 4, 5, 6, hein, je n'ai pas peur de ça. Dans une semaine.
Pas une parcelle sans plante. Vraiment votre slogan de mobilisation pour vaincre la bataille de la crise alimentaire en RDC. Alors, monsieur le ministre, pourquoi avoir pensé à un jardin domestique au lieu de penser comme sur d'autres cieux à la création des grands centres de chaînes de production industrielle agro-pastorales qui peuvent bien développer les pays en un laps de temps?
Ne nous réduisez pas. Les grands sites agricoles, quand on les met en place, on voit l'exportation. Et moi, je me dis, je n'exporte pas sans avoir nourri les Congolais. Et ça commence par les familles. Nous, Dieu nous a bénis. Nous avons le climat, l'environnement favorable. Les terres sont arables, même sans engrais. Et donc, dans une parcelle, on peut y mettre de racines d'épinards. Après 3 jets d'eau, vous commencez à voir que ça donne.
Est-ce et que, monsieur le ministre, vous avez pensé à la promiscuité des nos parcelles ici à Kinshasa?
La promiscuité, heureusement, je l'ai dit. La promiscuité, on prend ne fût-ce qu'un pot. Comme on fait avec les fleurs, vous verrez un locataire qui n'a pas 2 mètres carrés d'espace devant sa maison. Mais il a des pots de fleurs. C'est un goût qu'il faut se donner. Pourquoi ne pas mettre en lieu et place de fleurs? J'aime les fleurs. Qu'on mette les tomates, par exemple. Et quand ça sort, ça mûrit, on ne manquera pas de quoi mettre dans la sauce. Et quand on a 4, 5, 6 pots selon l'espace qu'on a, c'est une grande production.